ont connu une croissance fulgurante au cours des dernières décennies. Et nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Tant que nous produirons de l'énergie à partir de charbon, de pétrole et de gaz, nous alimenterons la crise climatique en générant des émissions de gaz à effet de serre. Les alternatives que représentent le vent, le soleil, l'hydraulique et le nucléaire suffiront-elles à satisfaire notre soif d'énergie ?
Le nucléaire n'est pas si compliqué, c'est une collision.
On crée de l'énergie en combinant deux éléments relativement légers pour en faire un élément plus lourd.
Le deutérium et le tritium entrent en collision.
Et ils libèrent un neutron à haute énergie.
Le neutron est libéré du noyau et il est absorbé par la paroi de la chambre qui emmagasine la chaleur.
Que nous pouvons convertir en énergie thermique.
Cette vapeur va faire fonctionner une turbine qui va à son tour produire du courant électrique. C'est le principe de base.
C'est un processus très complexe, encore plus que d'aller sur la Lune. Nous élaborons des solutions en vue de l'exploitation commerciale de l'énergie de fusion.
La compétition a commencé dans ce domaine, y compris dans la perspective d'un approvisionnement énergétique décarboné.
Concluant, pour la première fois dans l'histoire, une fusion nucléaire a permis de produire plus d'énergie que celle qui avait été injectée dans le système au départ. Une étape décisive ?
C'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis 70 ans, de montrer qu'on est capable de générer de l'énergie par la fusion nucléaire. La fusion, c'est un procédé qui est extrêmement difficile à atteindre, mais une fois que vous l'avez atteint, vous êtes en fait aidé par le process, puisque tout devient plus chaud et un peu plus facile. Donc une fois que vous avez passé ce point, les choses vont devenir plus faciles pour aller vers un réacteur.
Greg de Temmermann a longtemps été chercheur dans le domaine de la fusion nucléaire. Il s'attelle désormais à promouvoir différents systèmes énergétiques avec un moindre impact sur le climat. Trois concepts de fusion nucléaire sont en lice pour l'élaboration d'un futur réacteur. Parmi eux, figure la fusion inertielle. Jusqu'à récemment encore, ce procédé était plutôt délaissé par la recherche. Le récent succès de la fusion nucléaire aux États-Unis pourrait-il changer la donne? Une chose est sûre, cette prouesse technique a remis les recherches sur la fusion inertielle au goût du jour et a attiré l'attention de la communauté scientifique sur ce projet d'envergure. Markus Roth souhaite développer une centrale à fusion inertielle. Le professeur de physique des lasers et des plasmas de l'Université technique de Darmstadt a fondé l'entreprise Focused Energy. En théorie, sa démarche pour produire de l'énergie à partir de la fusion nucléaire est très claire.
Pour produire de l'énergie à partir de la fusion inertielle, nous utilisons une petite bille de seulement 2 mm de diamètre. Cette bille chute au centre d'une vaste chambre sphérique. Notre procédé consiste ensuite à faire converger des faisceaux laser sur cette bille afin qu'elle soit chauffée à très haute température et qu'elle engendre un plasma. L'intérieur de la bille, quant à lui, est comprimé en son centre, où on retrouve des conditions similaires à celles du cœur du Soleil. Et c'est de cette manière qu'on déclenche la fusion. Une onde de fusion se propage alors à travers le combustible, le consomme et génère une quantité d'énergie 100 fois supérieure à celle injectée par les faisceaux laser. Il faut répéter l'opération 10 fois par seconde. On lance une bille dans le réacteur et on la fait chauffer. La centrale génère un courant électrique d'une puissance d'environ 1 gigawatt, soit un rendement comparable à une grosse centrale à charbon.
Mais l'entreprise de Darmstadt doit d'abord repasser par les fondamentaux.
Le but du dispositif Félix n'est pas de produire de l'énergie à partir de la fusion. En revanche, nous pouvons expliquer une grande partie de la physique fondamentale et nous pouvons créer des conditions de pression et de température indispensables à la fusion. Et si en faisant cela, on obtient des particules élémentaires, on pourra certainement les étudier.
Comment générer les impulsions des faisceaux laser ? Et quelle trajectoire optimale ces faisceaux doivent-ils suivre pour déclencher la combustion de la bille? L'équipe de recherche calibre et réajuste minutieusement tout le dispositif expérimental. Les expériences menées actuellement n'en sont encore qu'à leurs prémices. le faisceau laser généré est encore loin d'être assez puissant pour être utilisé dans une centrale à fusion nucléaire.
Là, nous n'utilisons qu'un seul faisceau laser. Mais dans une centrale à fusion nucléaire, il faudrait en utiliser 2 à 300 et bombarder la cible 10 fois par seconde. Ce sont les conditions indispensables au bon fonctionnement de ce système. Sans compter que nous devons réussir à générer des faisceaux laser moins gourmands en énergie.
L'objectif des chercheurs est de recréer sur Terre les conditions d'un phénomène qui ne se produit habituellement qu'à l'intérieur des étoiles et qui provoque leur scintillement, à l'instar de notre Soleil, constitué d'un plasma, c'est-à-dire un gaz chauffé à plusieurs millions de degrés. Et les noyaux atomiques, qui normalement se repoussent, commencent à fusionner. Un processus qui libère de l'énergie. Mais comment le reproduire ?
Pour fusionner des particules, il faut premièrement une température très élevée. Deuxièmement, une densité très élevée, c'est-à-dire une très grande quantité de particules dans un volume donné. Les deux ensemble donnent la fusion d'un grand nombre de particules et avec la libération d'une grosse quantité d'énergie. Et le troisième paramètre important, c'est le temps de confinement, qui mesure l'efficacité avec laquelle le plasma stocke l'énergie.
Vous avez donc un produit de trois facteurs, la densité multipliée par la température multipliée par le temps de confinement, qui doit être supérieur à une certaine valeur. Mais on va pouvoir travailler soit à très haute densité, donc ça c'est la fusion inertielle, on va compresser de la matière à une densité typiquement 100 fois plus que celle du plomb, donc une matière qui est vraiment extrêmement dense, mais pendant des temps extrêmement courts, on va parler de milliardièmes de seconde. L'autre approche, c'est d'utiliser les temps de confinement beaucoup plus longs, et donc c'est ce qui va distinguer les deux principes.
Tandis que la fusion inertielle génère en continu un plasma éphémère à haute pression, la fusion magnétique, elle, tente de confiner le plasma de manière permanente. Comme aucun matériau au monde n'est capable de résister à de telles températures, le plasma est maintenu en suspension et tourne en rond à l'intérieur du réacteur sans entrer en contact avec les parois. Ce processus est rendu possible grâce à des champs magnétiques.
Et donc pour faire ça, on prend des bobines extrêmement puissantes qu'on met autour du tore, on génère un champ qu'on appelle toroïdal. Il faut un deuxième champ magnétique pour stabiliser le plasma qui doit être dans le sens perpendiculaire en fait au champ principal.
Le premier champ magnétique est généré par les bobines en forme d'anneau. Le deuxième est créé par une colonne de transformateurs qui provoque un courant électrique dans le plasma. La cage magnétique est prête. C'est ce qu'on appelle un tokamak.
Alors, la combinaison de ces deux champs magnétiques va stabiliser les choses. Et ça a un autre avantage, c'est que comme on génère un courant dans le plasma, ça chauffe le plasma. Donc historiquement, c'est pour ça que le tokamak a été la configuration privilégiée.
Développé en Union soviétique à la fin des années 1960, le concept de tokamak a connu une percée majeure à la fin des années 1990.
It lasted only a flash.
En 1997, une équipe de chercheurs d'un site de fusion nucléaire près d'Oxford, au Royaume-Uni, célèbre un record de production d'énergie à partir de la fusion nucléaire. Une étape cruciale, même si l'énergie produite était d'un tiers inférieure à celle qui avait été injectée au préalable dans le plasma du tokamak.
De l'équipe de 1997. On voit sur les photos de l'époque que la salle de contrôle était bondée. C'était un moment complètement hallucinant et excitant.
Plus de 25 ans plus tard, Fernanda Rimini est devenue une figure clé du développement de la recherche sur la fusion nucléaire. Aujourd'hui, elle dirige les expériences sur le Tokamak Jet, un réacteur expérimental britannico-européen. Chaque série d'expériences la rapproche un peu plus de l'objectif ambitieux de maîtriser la fusion nucléaire. Récemment, une nouvelle étape a été franchie. L'équipe a battu son record mondial de 1997.
Ce génie fait des miracles. Cette fois, nous avons réussi à atteindre une puissance beaucoup plus élevée, ce qui signifie que le plasma était plus chaud.
Des records énergétiques qui prouvent que l'approche du tokamak est prometteuse. Mais un autre élément est décisif.
Vraiment, la chose qui a été passée un petit peu sous silence et qui est extrêmement importante, parce que c'est ce qu'on voit à NIF aussi maintenant, c'est qu'on est capable de prédire. Et si on est capable de prédire, c'est-à-dire qu'on comprend beaucoup mieux la physique, et c'était une des pièces qui nous manquait, parce que c'est ce qu'il va falloir faire pour un réacteur plus tard. Donc c'est aussi une démonstration que la connaissance, le niveau de connaissance a beaucoup augmenté.
That gives us
On a bon espoir qu'en transposant le comportement de cette machine à un dispositif de plus grande envergure ou à des tokamaks similaires, on pourra prédire ce qui se passera.
C'est ici, dans le sud de la France, que doit être construit le plus puissant des tokamaks, ITER. À ce jour, le plus grand chantier au monde dans ce domaine. ITER est censé montrer à grande échelle que la fusion nucléaire pourrait bien devenir l'énergie de demain.
C'est un peu comme en musique. Si vous aimez les orchestres symphoniques parce qu'il y a beaucoup d'instruments différents, là, il y a un peu de ça. En tant qu'ingénieur, c'est un domaine de recherche passionnant.
35 pays participent au projet. Et 30 000 personnes planchent sur un tokamak censé produire 10 fois plus d'énergie que celle injectée au préalable.
L'idée d'ITER, c'était de dire que c'est la dernière étape avant un réacteur ou un démonstrateur industriel. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important.
Mais la plus grande complexité du tokamak, c'est le plasma. Ce gaz brûlant est chaotique et son comportement peu prévisible. Des turbulences peuvent rendre à tout moment le plasma instable.
Un tokamak, on peut l'imaginer un petit peu, le plasma d'un tokamak comme une chambre à air. Vous passez un courant, donc vous tordez en fait un peu le plasma, parce que vous avez une structure magnétique assez compliquée. Mais ce qui va se passer, c'est que régulièrement, vous allez avoir des instabilités, le plasma essaie de revenir en place.
Parfois, de petites particules de plasma peuvent s'échapper de la cage magnétique, entrer en contact avec la paroi et en arracher des atomes. Ceci contamine à leur tour le plasma et absorbe une partie de son énergie. Énergie qui fait par conséquent défaut à la fusion.
On a des instabilités qui grossissent et qui font en sorte que quasiment le plasma n'est plus confiné par le champ magnétique et il s'écrase sur les surfaces autour.
Résultat, le flux de plasma s'interrompt.
Dans un réacteur, vous ne pouvez pas avoir une disruption en pleine puissance. Vous allez endommager les matériaux, vous allez devoir retourner à l'intérieur, réparer des choses, ça prend des mois, c'est juste quelque chose qui n'est pas possible.
Il faut donc trouver des solutions. Ici, à l'Institut de physique des plasmas de Garching, près de Munich, en Allemagne, des chercheurs étudient la fusion magnétique depuis des décennies à l'aide d'un tokamak expérimental de leur conception. Les résultats des près de 40 000 essais sont censés faire avancer le grand projet ITER. L'ingénieur Thomas Fierle fait partie de l'équipe chargée d'installer, d'ajuster et d'optimiser les expériences. Le scientifique et ses collègues cherchent à savoir quels matériaux résistent le mieux à des températures extrêmes et quels sont ceux qui contaminent le moins le plasma. Un des matériaux les plus adaptés et les plus résistants à la chaleur est le graphite. Mais le bombardement de particules de plasma arrache un trop grand nombre d'ions plasma de la paroi en graphite. Résultat, le plasma est contaminé. Depuis, les chercheurs ont découvert que le tungstène, le métal ayant le point de fusion le plus élevé, était le matériau le plus approprié.
Nous sommes passés d'une machine en graphite à un dispositif en tungstène. Et à l'exception d'un composant, l'ensemble est composé de graphite revêtu d'une mince couche de tungstène, comme on le voit ici. Et il y a bien sûr des pièces très exposées, comme celle-ci, en tungstène massif, qui est assez lourde en raison de la densité de cet élément chimique. Elle doit peser plus d'un kilo. Elle est censée résister à des températures de plus de 1000 degrés. Et contrairement au graphite, le tungstène a l'avantage de rester quasiment indemne de toute pollution.
Le tungstène a tellement fait ses preuves qu'il sera même utilisé dans la construction d'ITER. Mais quasiment indemne ne signifie pas pour autant sans aucune contamination. Alors comment remédier au problème? Non loin du chantier d'ITER, des chercheurs de l'Institut de recherche sur la fusion magnétique tentent de trouver une solution permettant de débarrasser le plasma de toute impureté. Les découvertes de Jérôme Bucal aussi pourraient bien faire avancer le projet ITER. Son objectif? extraire rapidement les particules indésirables du plasma de manière contrôlée avant qu'elles ne causent des dégâts. Dans le domaine de la fusion magnétique, on mise sur un composant que les physiciens désignent familièrement comme la poubelle du plasma.
Quand on chauffe le gaz et le plasma, à un moment donné, la chaleur elle va sortir et elle va se retrouver sur les parois, tout autour. Et en particulier sur ce composant ici en bas, où elles vont être focalisées par le champ magnétique, pour amener toute la charge thermique sur ce composant-là. Et donc là, il faut, par des dispositifs justement qu'on étudie ici, dans ce tokamak-là, arriver à extraire la chaleur en continu.
Ce dispositif appelé divertor sert à extraire les impuretés du plasma.
Donc les particules qui circulent autour, elles suivent les lignes de champ et elles viennent taper dans le divertor ici et taper dans le divertor de l'autre côté. Donc on voit les dépôts ici. Et là ici, on faut imaginer que c'est là où le plasma frappe, ici. Peut-être on voit que c'est très brillant. Les flux de chaleur auxquels on parle sont des flux vraiment gigantesques. Ça correspond quasiment aux flux de chaleur à la surface du Soleil. Ou si vous voulez, un véhicule spatial qui rentre dans l'atmosphère, vous voyez le bouclier thermique qui est érodé et qui est en fusion quasiment.
Pour résister aux températures extrêmes, les plaques du divertor sont en tungstène et refroidies en permanence. Ces précautions n'empêchent pas le divertor de s'altérer avec le temps.
Un enjeu, c'est qu'il dure pendant des heures et des journées de plasma. Et ça, c'est des choses qu'on commence à peine à aborder. Dans toutes les machines ici, on fait en général les plasmas pendant quelques secondes ou dizaines de secondes. Et donc, ce qui est important, c'est de voir sur le long terme comment ces composants vont se comporter. Est-ce qu'on va devoir les changer tous les ans, tous les deux ans, cinq ans? Donc ça, c'est des choses qu'on regarde et qui sont très importantes pour pouvoir imaginer une production commerciale d'énergie.
S'ils permettent de stabiliser le plasma, les divertors ne sont pas pour autant une garantie contre les pannes au sein du réacteur à fusion. C'est la raison pour laquelle des techniciens sont formés sur des maquettes de tokamak pour assurer la maintenance des futures installations. Les réparations sont effectuées par des robots pilotés à distance, car les parois deviennent légèrement radioactives en raison du bombardement permanent de particules de plasma et de neutrons. Mais contrairement à la fission nucléaire, la fusion nucléaire ne produit pas de déchets hautement radioactifs à longue durée de vie. Les instabilités du plasma sont un vrai casse-tête pour les chercheurs. Elles sont extrêmement difficiles à prédire dans le tokamak. Le tokamak est-il alors vraiment un concept approprié? À Greifswald, en Allemagne, des chercheurs ont élaboré le programme Wendelstein 7X, une alternative prometteuse basée cette fois sur le principe du stellarator.
Actuellement, le plus avancé, c'est le tokamak. Après, c'est le stellarator, dont l'Allemagne est le leader technologique avec le projet Wendelstein 7X. Selon moi, ces technologies ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Reste à savoir laquelle de ces solutions est la plus économique.
En tant que directrice de l'Institut de physique des plasmas, Sibyl Günther effectue aussi bien des recherches sur le tokamak que sur le stellarator.
Le tokamak est plus avancé et il atteindra probablement son objectif plus rapidement. Mais sa cage magnétique nécessite la circulation d'un courant dans le plasma et il ne peut fonctionner que par impulsion. Le stellarator, lui, est plus intéressant car il n'a pas besoin de ce courant et peut fonctionner 24 heures sur 24.
Contrairement au tokamak, le stellarator n'est pas tributaire d'un courant pour confiner le plasma de manière stable et durable. Mais comment y parvient-il ? Des bobines magnétiques de forme complexe confèrent au plasma sa forme torsadée et permettent de le confiner de manière stable.
L'élément décisif du stellarator, c'est son champ magnétique. Il est en forme d'anneau. Nous, on parle en l'occurrence de tor. Nous avons donc un champ magnétique en forme de tor. Et ce qui fait la particularité du stellarator, c'est que son champ magnétique est torsadé. On a donc des formes et des spires particulières dans le champ magnétique qui font que les particules chargées du plasma restent confinées dans ce volume.
Actuellement, le stellarator Wendelstein 7X fait l'objet d'une restructuration importante. Une nouvelle série d'expériences est censée montrer que ce dispositif peut confiner du plasma de manière stable jusqu'à 30 minutes.
On voudrait démontrer que le concept du stellarator est tout aussi fiable que celui du tokamak. Cela permettrait à terme de pouvoir choisir entre l'un ou l'autre dans une centrale électrique. On sait qu'ils comportent chacun des avantages et des inconvénients, mais il faut encore les préciser. On est sur la bonne voie et notre programme de recherche devrait s'étaler sur 10 ans.
Effectivement, le Stellarator sera en premier. C'est pas très clair. Encore une fois, je pense que c'est intéressant d'essayer le tout parce que voilà, rien n'est facile dans la fusion et donc on ne sait pas quel sera le gagnant.
Une chose est sûre, le projet de fusion nucléaire est prometteur. Dans le vide, une quantité extrêmement faible d'hydrogène gazeux, 1 mg pour 30 mètres cubes dans le Wendelstein 7X, peut se transformer en une formidable source d'énergie. Un chauffage par micro-ondes transforme le gaz en plasma et le chauffe à 100 millions de degrés, soit une chaleur 10 fois plus élevée que le noyau du Soleil. Les températures sont tellement extrêmes qu'ici, sur Terre, des noyaux atomiques peuvent fusionner et produire plusieurs fois l'énergie injectée dans le système. Pour pouvoir être utilisé dans une centrale électrique, tous les concepts de réacteurs de fusion nucléaire doivent tôt ou tard être en mesure d'accomplir une tâche cruciale. Faire fusionner deux combustibles. En l'occurrence, deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Au Centre britannique de fusion nucléaire, près d'Oxford, Stephen Wheeler et son équipe connaissent bien la complexité de ces deux combustibles. Si le deutérium peut être facilement traité à partir d'eau de mer, il en va autrement pour le tritium.
Le tritium est un élément radioactif naturel beaucoup plus difficile à produire. Il n'est pas présent à la surface de notre planète, se désintègre avec une demi-vie d'environ 12,3 ans et il y en a chaque année un peu moins. Le tritium que nous utilisons aujourd'hui dans la recherche est un sous-produit de certains types de réacteurs à fission. Mais